Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le livre « Contes et légendes du Languedoc », des récits traduits et adaptés de l'occitan par Marcel Barral et Charles Camproux, dans les éditions Fernand Nathan, nous retrouvons la lecture du septième conte, avec le titre « Cadet Briscambille ». En bref, de famille pauvre, il poursuivait de bonnes études à Montpellier, soutenu par les maigres possibilités pécuniaires de sa maman, mais aussi par un ami, mais celui-ci fort peu recommandable, Geoffrey Loriol. Et avec cet ami, il est tombé dans le cycle infernal du jeu. Et voici donc notre début de lecture. Alors, ce fut la belle vie. Qui l'avait vu et qui le voyait ? Il était pimpant et faro, beau et superbe, dans de magnifiques habits, taillés pour lui par un maître sartre, et non plus achetés chez un misérable fripier. Dans son large surcot de fin velours cramoisi, avec sa ceinture de moire où rutilaient des pierreries, son feutre conique orné d'une houppe de pourpre et d'or, on aurait dit un grand seigneur, un prince, un roi. Et il allait au milieu d'une troupe d'admirateurs, d'adulateurs, une troupe tourbillonnante, papillonnante d'amis intéressés. Car maintenant, des amis, il en avait partout. Il aurait peut-être mis moins de temps à évaluer sa fortune qu'à compter ses amis, tant ils étaient nombreux. Et tous ces gens vivaient à ses crochets, banquetaient à ses frais jouaient, riaient, chantaient. Et lui, dans la fièvre de la jouissance, il aimait cela. Il se plaisait à les entendre, à les voir. Et quand l'un d'eux, plus hardi que les autres, lui donna un jour du « Messire de Briscambille », il ne sourcilla point et le flatteur reçut en récompense une bourse remplie d'or. Que ne songeait-il alors à sa pauvre mère de veuve ? Que ne songeait-il alors à sa crasse natale et à sa misère ? Mais vous savez bien que l'on se laisse facilement éblouir par l'éclat de l'or. Et lui, il nageait dans cette béatitude que d'ailleurs il payait fort cher. Baste, n'avait-il point une richesse fabuleuse ? Et ne l'avait-il point pour toujours ? Car entre nous, Messire le démon avait fait un marché de dupes avec lui. Ce serait si facile que d'apporter dans 11 mois, l'écu d'or, le seul écu d'or qu'il était sûr que la fortune du trésor de Substantion lui resterait et qu'il sauverait son âme. Que ne se souvenait-il, le malheureux, que la porte du paradis est plus étroite pour les riches que le chat d'une aiguille pour un chameau ? Mais après sa rudesse première, la vie était devenue si facile qu'il en était encore ivre et abasourdi. Dans la maison qu'il avait achetée dans le Sixaine de Sainte-Foy, c'était tous les jours des fêtes, des réjouissances. Tard levé, après une toilette longue et minutieuse, il allait se promener entouré de ses clients comme un chevalier romain. Après un bon repas, l'après-midi, il allait jouer au mail auprès Marie, sur les bords du Merdançon, ou au noble jeu de l'art, du pagodaï et de l'arbalète dans un champ derrière Saint-Denis. Et il revenait dans le cortège fastueux de ses bourdonnants amis qui chantaient ses louanges. Puis le soir, chez lui, continuait la fête, fort avant dans la nuit. Et quelle fête, mes amis ! Parfois pourtant, avec son éternel Geoffrey Loriol, qui était plus inséparable que jamais, il allait finir, oubliant sa solennelle promesse, chez Maître Garrigue une journée d'oisiveté. Et il perdait, en toute conscience, pour faire plaisir à ses amis. Ça n'était pas cependant un mauvais garçon, ce cadet Briscambille. S'il ne songeait pas toujours à sa pauvre mère qui se saignait aux quatre veines pour lui, ingrat et misérable, du moins n'avait-il point rompu toute attache avec son passé. Ainsi, il avait gardé sa chambre chez Moss de Bella et il continuait à payer sa pension régulièrement avec l'argent, une livre, 11 sols, 8 deniers, que lui apportait tous les trimestres Gustou le muletier. Et il y avait aussi la lettre et la réponse qu'il fallait faire. « Je suppose, mon cher cadet, que tu es resté toujours aussi honnête, sage et prudent. Travaille bien, mon cher cadet, car les temps se font durs. Et je me demande parfois si je pourrais aller jusqu'au bout du sacrifice que je me suis imposé pour toi. Travaille et sois vite savant. » À lire ces lignes, le pauvre cadet sentait son bon cœur de bon et brave garçon s'émouvoir. Et le plus dur, c'était la réponse à faire. Pour la faire, cette réponse, il restait enfermé ce jour-là dans sa chambre chez Moss de Bella, dans sa pauvre chambre. Et là, pour avoir l'inspiration, il jouait à l'étudiant pauvre et besogneux. Mais l'inspiration ne venait pas toujours. Une fois, il s'était attablé pour écrire. Mais la table bancale, déplacée sans doute par Moss de Bella, qui faisait de temps en temps le ménage, la table remuait. C'était gênant et irritant, d'autant plus que ce pauvre cadet ne savait trop que mettre dans sa lettre. Et d'autre part, avoir toujours ses désirs satisfaits, il avait oublié ce qu'était la patience. « Aïe, cadet 10 de cette table, mais quelle baraque !» Mais il eut une idée. Et négligemment, il cala le pied boîte de la table avec un bel écu d'or de Saint-Louis qu'il sortit de son escarcelle. Et tant bien que mal, il se remit à sa lettre. « Ohé ! Ohé, cadet ! Oh ! Oh, cadet !» En bas, dans la rue, sous sa fenêtre, Geoffrey Loriol l'attendait avec toute une bande. Et cadet, pensant que sa mère espérerait bien encore un peu la lettre, la laissa inachevée, ferma la porte et s'en alla. Et les jours passèrent, vite, vite, car c'étaient des jours heureux. Mais la fortune de cadet, elle diminuait. Il n'en avait pas eu de soucis jusqu'alors. Aussi décida-t-il de récupérer un peu d'argent. Et il fit du commerce. Oh, pas du petit commerce, comme son ancien maître, Laurent Murcia, petit apothicaire du canon. Non. Il s'aboucha avec un pébrier sobeyant, avec un carabasse lui-même. Et il participa pour la plus grande part aux frais d'achat et d'armement d'une galée. Il fallut mettre gros. Il changea sur les banques de marbre des cambiadors de Notre-Dame des Tables une bonne douzaine de belles et fines pierres. Et l'affaire fut faite. La fortune de cadet, la superbe fortune de cadet, vogua sur la mer. Elle devait revenir au port de Latte sous forme de bonnes et belles épices qu'il revendrait fort cher à Paris, en Angleterre ou dans les Flandres. Il fit mieux. Il s'établit pour l'avenir. En Carabasse avait une fille, une belle fille, ma foi, Joliette et gentille, toute brune, comme sa vénitienne de mère. À voir le train de notre cadet Briscambille, en Carabasse avait pensé qu'il serait pour sa jeune et jolie Naguilelma un excellent parti. Cadet d'abord n'avait dit ni oui ni non. Mais tous les jours, il envoyait des musiciens sous les fenêtres de la belle pour lui faire l'aubade. Et lui-même, jouant l'amoureux, se prenait à faire des vers où il chantait ses mérites et ses innombrables beautés. À la fin, il se laissa fiancer. Ce fut une fête magnifique. Toute la cité en fut émue et en parla. Et cadet, pour plaire à son futur beau-père, en fit tous les frais. Ajoutez à cela qu'il avait fait sertir par un dorador de l'argenterie une énorme émeraude sur un épais anneau d'or. Et ce fut la bague de fiançailles qui lui coûta une bonne part de sa fortune. Cependant, les jours passaient et l'hiver arrivait. Mais la galée, elle, n'arrivait toujours pas. La galée qui devait lui apporter toutes ses espérances. Ce qui arriva, par contre, ce fut une mauvaise nouvelle. On apprit, en effet, un jour, que la fameuse galée tant attendue avait fait naufrage. Naufrage au large de la Sicile, au cours d'une tempête de l'équinoxe. Notre pauvre cadet en fut réduit à faire, pour une bonne fois, le compte de sa fortune. Il avait encore 7 bons mois devant lui, il est vrai. Mais il savait par expérience que le vent change vite. Et bien que la richesse lui eût tourné la tête, il lui restait cependant assez de bon sens pour prendre quelques précautions indispensables. Ce qu'il avait oublié, par exemple, c'est qu'un malheur ne vient jamais seul. Peu de temps après l'annonce de la perte de la galée, il avait confié le restant de son argent et de son or à Ancarabas, qui devait s'occuper de noliser un nouveau navire. Et cette fois, bien sûr, l'affaire était encore plus merveilleuse. Elle le fut, en effet, mais pour Messire Carabas, il affréta certes la galée, puis il partit avec elle, emportant par la même occasion l'argent et l'or de Cadet Briscambille, emmenant avec lui sa fille, ses bijoux et la fameuse bague. Bref, il n'oublia rien, si ce n'est à laisser sa nouvelle adresse. Cadet, pour le coup, se crut ruiné. Il n'en était pas loin. Il fit et refit ses comptes en pâlissant. Alors, hanté par l'idée qu'un jour, il faudrait avoir au moins un seul écu d'or à présenter, il s'avisa d'une ruse de paysan. Il cacha par-ci, par-là, dans des pots, sur des étagères, dans tous les coins, les quelques écus qui lui restaient. Cela, au moins, il ne les dépenserait point. Sa fortune périclitant, les amis s'étaient évanouis. Et cela aussi le chagrinait, tandis qu'il faisait sur leur inconstance d'amères réflexions. Ce sont amis que vent emporte, or ils ventaient devant ma porte, et le vent les emporta. Et les jours passaient. De Messire Carabas, point de nouvelles. Point de nouvelles non plus de son or ni de son argent, pas de nouvelles non plus de Naguielma. Et c'était encore peut-être elle que Cadet regrettait le plus. Il avait par contre des nouvelles de ses fournisseurs dont il recevait des mémoires. Sartre, Cordurier, Jupier, Capelier, Pellissier lui rappelaient tour à tour que Crédit était mort pour lui. Et il fallut payer des notes invraisemblables qu'il n'était plus à même de vérifier. Aussi fut-il contraint un jour de vendre sa maison. Ce fut pour lui la pire des déchéances et le symbole de sa décadence. Car il est dur, après qu'on a eu pignon sur rue, de remonter dans l'opinion publique si on perd cette prérogative. Et de plus, cette vente fut pour lui un coup fatal. Il vendit la maison avec tout ce qu'il y avait dedans et il oublia les écus d'or cachés dans les encoignures. Il revint donc chez Mos de Bellas dans sa petite et pauvre chambre. Et après avoir payé à ce fripon de maître Garrigue quelques petites dettes, il s'aperçut qu'il ne lui restait plus que 13 livres, 3 sols et 6 deniers. Et il ne restait plus que quelques jours. Et il avait pris de mauvaises habitudes, les bons repas, les après-midi au mail et au tir à l'arc, les dés. Aussi mélancoliquement n'espérait-il plus pouvoir retrouver sa fortune et sauver son âme. Emprunter ? Impossible. On l'avait connu trop riche et on n'avait plus confiance. Ni l'usurier de Castelmoton, ni ce diable de Geoffrey Loriol ne voulaient plus rien entendre. Solitaire, traînant ses beaux habits qui commençaient à se râper, passant son temps à flâner et à rôder par les rues ou à faire de misérables parties de dés qui lui permettaient de vivoter, le malheureux garçon voyait, avec un sombre désespoir, approcher l'échéance fatale. Il n'aurait jamais l'écu d'or, le seul et unique écu d'or qu'il aurait fallu rapporter, et Messire le démon du Fabuleux Rocher avait 100 fois raison. Or, à la fin du mois de juin, le 23, jour de l'échéance, il reçut, comme à l'accoutumée, la somme dérisoire de sa pension, une livre, 11 sols, 8 deniers, et une belle et longue lettre de sa mère. « Mon cher cadet, disait sa mère, je pense que tu travailles de mieux en mieux. Ces mois-ci, j'ai pu te faire une surprise. Tu trouveras, en plus de la somme habituelle, 2 sols que j'ai patiemment économisés sur ma nourriture et mon entretien. Travaille bien, cadet, et deviens vite savant. » Le pauvre cadet fut ému jusqu'aux larmes. Cette marque d'amour lui toucha le cœur qu'il avait naturellement bon. Il se mit à pleurer en songeant à son ingratitude et à sa mauvaise conduite. Il se reprocha de n'avoir pas, au temps de sa richesse, songé à sa pauvre veuve de mère. Et il sentait en son âme un regret amer. Ah, certes, la leçon était cruelle, mais elle serait bonne. De tristesse, le pauvre cadet en oublia d'aller demander à Mos de Bella son maigre souper. Et il resta dans sa chambre, triste et en proie à de cruels remords. Cependant, dehors, les gens étaient sortis pour voir les feux de la Saint-Jean que l'on allumait sur tous les plans de la ville. Et c'était l'écho des rires et des cris qu'il entendait, des bandes joyeuses qui couraient dans les rues. Alors il se souvint, l'inconnu qu'il avait pris pour un béjaune, la partie de dés, le trésor de substantation, que c'était loin tout cela. Tu as le temps encore, riche, riche, riche comme Crésus. Perdu, tu as perdu, jeune homme. Si dans un an, jour pour jour, tu as tout dissipé au point de ne pouvoir me rapporter un seul écu d'or, alors tu auras montré la faiblesse de tous les autres et je garderai définitivement ton âme. Perdu, tu as perdu, jeune homme. Et il voyait devant lui en une vision de cauchemar le sourire ironique et cruel de son partenaire vainqueur. Toujours vainqueur. Évidemment, il n'avait aucune chance. Mais c'était toujours comme cela quand on jouait avec le diable. Évidemment, il avait été dupé, trompé, volé, pillé, dépouillé par ce grand brigand de Carabas. Il avait été sucé, rogné, rongé par ses soi-disant amis. Mais certes, lui aussi avait favorisé la mauvaise fortune. Et s'il pouvait accuser le sort, il pouvait également s'accuser lui-même. Amer examen de conscience, il éprouvait un dégoût qui l'écarterait des hommes méchants et bêtes pour la vie. Et il se souvenait d'un vieux et bon proverbe de son vivare natal. « La richesse d'un pauvre homme s'envaï comme l'aigade au sourel. » La richesse d'un pauvre homme s'en va comme rosée au soleil. Et dire que s'il n'avait pas suivi ce coquin de Geoffrey L'Oriole un soir de Noël à la taverne de ce maître Garrigue du diable, il serait toujours un bon et brave garçon, digne de sa pauvre mère. Il s'amuserait à cette heure comme les autres, à sauter les feux et à rire avec les filles. Il se préparerait à repartir dans son vivarais natal après avoir soutenu son acte et obtenu son titre de docteur. Ah, maudit Geoffrey L'Oriole, maudite vilaine tête! À la triste et fumeuse lueur de son calèle à l'huile, il s'accouda à sa table de travail poussiéreuse. Un bout de parchemin y était placé, poussiéreux lui aussi. Quelques mots y étaient tracés de son écriture, quelques rares mots jetés d'une plume hâtive. Il les lut machinalement. À Montpellier, ce 20e de septembre, ma chère et vénérée mère, je viens de Alors il se souvint. Tant bien que mal, il essayait ce jour-là de faire sa lettre. Et soudain, un appel dans la rue. « Ohé, cadet, ohé, ohé !» Depuis, misérable, il n'avait jamais écrit à sa pauvre mère. Il s'était contenté de faire tenir de ses nouvelles par gusto, en lui envoyant quelques friandises dans de menus paquets. C'était la dernière lettre qu'il avait voulu écrire ce jour-là. Il n'était pas inspiré. Et ce jour-là aussi, la table bancale... Mais au fait, il avait encore un écu d'or. Un écu d'or qu'il avait glissé sous le pied boiteux. Si Mos de Bella n'avait pas... Mais elle faisait si peu souvent le ménage. Il souleva la table et à la lueur du calèle, il vit briller l'écu d'or de Saint-Louis. Sauvé ! Il était sauvé ! Messire le démon, vous avez perdu. Il vous aurait fallu le voir courir à la poterne, du côté de la salle l'évêque, courir sur le chemin de Nîmes, courir sous la chaude et douce nuit de la Saint-Jean, sous les milliers de sourires des étoiles. À l'heure dite, il était au rendez-vous, devant l'Europe de sustentation, immobile dans la douce et chaude nuit. Immobile, au milieu du chant plaintif et monotone des rainettes. Immobile, dans les senteurs de la brise chargée des effluves des pins et de la pote des garrigues. À l'heure dite, le roc resta figé dans une morne et éternelle fixité. Continuait de clapoter sur ses berges. Les étoiles continuaient de sourire dans le ciel. Les rainettes continuaient de chanter dans les herbes. La brise continuait d'apporter ses chauds parfums de la garrigue. Cadet continuait de rester debout sur le bord, écrasant de ses pieds impatients une touffe de ménastre. Et le roc ne s'ouvrait pas. Les premiers coqs chantèrent. Dans le village, en face, des chiens aboyèrent. Puis, l'aube claire et tiède de juin emplit tout le ciel d'Orient, largement déployé. Et les choses se mirent à vivre. Le moulin de Navital se remit à chanter. Il y eut des appels. L'Angélus sonna au clocher de Castelnau. Alors, Cadet, heureux, mais un peu déçu quand même, car il aurait voulu triompher fièrement de son partenaire, Cadet, qui serrait dans sa main l'écu d'or de Saint-Louis, Cadet eut un geste héroïque. Un geste symbolique par lequel il voulut montrer à son démon qu'il avait rompu avec son passé. Il avait compris l'inanité des richesses qui ne sont rien à côté du vrai amour d'une mère, rien à côté du travail qui donne la joie. Cadet, triomphant et vraiment victorieux cette fois, fit avec l'écu d'or un magnifique ricochet à la surface calme du Lès. Un ricochet comme il en avait fait enfant sur les gourdes de l'Ardèche. L'écu d'or vola à la surface de l'eau, rasa la surface de l'eau comme une hirondelle qui vient y boire. Trois fois il sauta en rasant la surface de l'eau, puis il s'engloutit en faisant floc, comme quand une grenouille plonge dans une mare. Et ce fut fini. Alors, joyeux et guilleré, comme s'il venait de rompre une lourde chaîne, comme s'il venait d'être délivré d'un lourd esclavage, Cadet s'en fut en sifflotant vers la ville. Il s'en fut en faisant tinter dans sa pauvre escarcelle le montant de sa pauvre pension. 1 livre, 11 sols, 8 deniers. Quant aux 2 sols de supplément, il tintait à ses oreilles, encore plus gaiement que les autres. Car ils étaient le commencement de sa vraie fortune, de sa bonne fortune, de sa vraie et nouvelle vie d'amour, de joie et de travail. Telle est l'histoire de Cadet Briscambille que l'on peut lire dans un vieux manuscrit du temps écrit dans la belle et claire prose occitane, dans la belle et claire langue d'oc que l'on parlait à Montpellier à l'époque de Jacques Cœur ou de Saint-Roch. Elle ne dit pas si Cadet fut heureux pleinement par la suite, ni ce qui lui advint. Mais tout laisse croire qu'il fut désormais un escoulant, sage et travailleur. Et j'aime imaginer qu'un jour, en l'église Saint-Firmin, après avoir brillamment soutenu son actus et rendu grâces en latin à ses professeurs, il fut revêtu des insignes de son grade et coiffé du bonnet carré de drap noir surmonté d'une houppe de soie cramoisie. Puis, portant le livre d'Hippocrate, il parcourut les rues de la ville. Les hautbois jouent devant lui leurs refrains aigrelés, et ses amis et ses maîtres l'accompagnent. Des dragées, des fruits confits sont distribués aux gentes demoiselles et aux gamins qui suivent le cortège. Et la fête, dans une volée de cloches, se termine comme un baptême par un magnifique repas. Telle est, du moins, la coutume à laquelle étaient soumis les nouveaux docteurs de la faculté de médecine, qui faisait alors, avec son commerce des épices, la renommée de la bonne ville de Montpellier. Nous allons maintenant repartir avec une histoire nouvelle. Le 8e conte de notre livre. Il s'intitule « L'histoire merveilleuse d'un forgeron qui s'appelait Misère ». Il y avait bien longtemps que cela, c'était encore du temps où Marthe filait, dans un petit village du Pays d'Oc appelé Casavieille, vivait un forgeron si pauvre, pauvre comme Job. Et il avait 7 enfants à élever et à nourrir. Et les temps étaient durs et la vie était chère. Pourtant, bien qu'il fût pauvre, si pauvre, pauvre comme Job, il était joyeux et ne se plaignait pas de son sort. Ce n'était point cependant que la fortune fût favorable à ses projets, à ses désirs. Au contraire, elle s'ingéniait, semblait-il, à les contrarier et à s'y opposer. Ainsi, le pauvre, si pauvre forgeron était malchanceux. Quand il arrivait une calamité publique, le malheureux forgeron était obligatoirement parmi les victimes. Un orage éclatait-il sur le pays? C'était un des arbres de son verger qui recevait la foudre. Une gelée désolait-elle la région? Sa vigne, au bord de la rivière, était toute grillée et pour lui, c'était déjà vendange faite. Si une chèvre avortait, c'était évidemment la sienne. Si les lapins ravageaient les jardins, c'était dans le sien qu'ils allaient de préférence. Et si les soldats passaient par là, c'était chez lui qu'ils allaient frapper pour demander le vivre et le couvert. Bref, comme dit le proverbe, il pleut toujours sur ceux qui sont déjà mouillés. Et le pauvre, si pauvre forgeron, pauvre comme Job, soumis et courbant le front, laissait passer une tempête et se préparait incontinent à faire face à une autre. Aussi, les gens du pays l'avaient-ils appelé Misère, parce que toute sa vie en était longuement tissée et qu'il aurait pu compter facilement sur les doigts de sa main les jours fastes et heureux. Au milieu des 1000 tracas de l'existence, Misère cependant faisait sa besogne au jour le jour, vivant tant bien que mal, et plutôt mal que bien, du produit assez maigre d'un jardin et d'un verger qu'il avait derrière sa maison dans un clos attenant et d'une petite vigne au bord de la rivière qui, quand elle n'était pas gelée ou inondée, lui donnait de quoi faire un peu de vin pour les dimanches et les fêtes et de la piquette pour le restant des jours. Ajoutez à cela le méchant salaire que lui rapportait son travail à la forge. Petit, méchant salaire, car la pratique était peu nombreuse et souvent payée fort mal. Aussi, le pauvre, si pauvre forgeron, se donnait-il bien du mal et de la peine pour rien, ou du moins peu de choses. Et il y avait toujours quelque chose d'imprévu. La femme malade, un des enfants qui se cassait le bras, un autre qui attrapait la scarlatine, un autre la picote, et tout l'argent filé chez l'apothicaire. De quoi perdre la tête? Mais notre homme, heureusement, en bon gavache, l'avait solidement fixé sur ses épaules, sa tête. Et certes, le vent du malheur aurait dû souffler bien fort pour la lui emporter. Et puis, Misère, tout pauvre, si pauvre qu'il fût, pauvre comme Job, avait du moins une richesse, et non petite, la richesse du cœur. Il était charitable et compatissant, toujours prêt à rendre service, à secourir les gens plus malheureux que lui, à donner un coup de main. Si peu qu'il y eût, chez lui sur la table, il y avait toujours assez pour le mendiant qui venait frapper à sa porte. Quand c'était la saison des poires, il aurait, pécaïre, laissé piller son verger tant il était bon. Si quelqu'un avait besoin d'un coup de main pour les gros travaux de la campagne, Misère abandonnait son enclume et son marteau et il se contentait parfois d'un simple « merci ». Évidemment, les gens qui se laissaient aller à une si grande charité ne peuvent devenir bien riches. Et voilà pourquoi, la malchance aidant, notre brave homme de Forgeron était pauvre, si pauvre, si pauvre, pauvre comme Job. Un jour de printemps, il avait, dès le lever du soleil, ouvert sa forge. En chantant, car chanter en commençant l'ouvrage, cela aide à le faire. En chantant donc, il tapait sur l'enclume. Dans la pénombre de l'atelier, il faisait jaillir d'un morceau de fer rougi des milliers d'étincelles. Le jour clair au dehors était rempli du chant joyeux des oiseaux. Merles, passereaux, fauvettes, pinsons s'en donnaient à cœur joie dans les haies, dans les buissons, dans les vignes, partout. Le bruit du marteau sur l'enclume qui sonnait clair dans l'air tiède et doux faisait l'accompagnement de cet agréable concert. Et c'était un matin de printemps radieux et prometteur. Or, sur le chemin, soudain, apparurent deux hommes misérablement vêtus et qui tiraient par la bride une vieille saume. Une pauvre et misérable bête, aux pattes terriblement maigres, au ventre terriblement rebondi. Ses côtes pécaillent saillaient comme des cercles de barrique, et sa queue déplumée disait son grand âge de pauvre et misérable ânesse qui a porté souvent le bas et trimé le long du dur chemin de la vie, trimé plus qu'il n'est possible même pour un âne. Ses deux oreilles longues et pelées, son poil tout rogneux et sa maigreur de charogne, tout inspirait pour elle la commisération et la pitié. Et pourtant, clopinant et traînant les sabots, elle marchait, la pauvre bête, tirée par l'un, poussée par l'autre, et panardant par-dessus le marché, panardant d'une patte de derrière, ce qui donnait à sa démarche une allure fantomatique et fantastique. Les deux hommes, d'ailleurs, ne valaient pas mieux que la bête. L'un était un bon vieux papette, à la barbe blanche, une belle barbe blanche, ma foi, qui inspirait le respect. Elle rendait ce traîne savate vénérable, malgré ses haillons rapiécés et fanés qui, depuis belle lurette, avaient fait leur temps. L'autre était beaucoup plus jeune, mais le pauvre, il était pâle comme un mort, si pâle, et encore plus pâle sous ses cheveux blonds. Son regard était doux et plein de bonté. C'était sans doute lui aussi un représentant de la catégorie des résignés et des bonnes âmes. En tout cas, il était aussi pauvrement vêtu que le vieux papette, à la barbe blanche, le bon vieux petit papette, respectable malgré ses haillons. Traînant la pauvre saume par le licou, les deux voyageurs arrivèrent devant la forge de Misère. Lui, il tapait sur l'enclume en chantant pour répondre aux oiseaux du printemps et il faisait jaillir d'un morceau de fer rougi des milliers d'étincelles qui partaient, brillantes comme des étoiles, dans l'obscurité de l'atelier. Le plus vieux des deux s'approcha du forgeron. « Bonjour, maître, » dit-il. « Bonjour, messire, » fit le forgeron qui s'arrêta de battre le fer et dont le marteau posé sur la corne de l'enclume rebondissait à petits coups. « Voudrais-tu, reprit le vieillard, voudrais-tu nous ferrer notre ânesse ? Elle boite parce qu'elle a perdu un fer en montant la côte de Morin. Et tu vois, c'est ennuyeux, car la bête est vieille et panardée ainsi sur les chemins n'est pas fait pour lui donner de la force et de l'allant. »« Baste, dit Misère, si nous avons un fer, ce sera vite fait. » Et ce disant, il alla quérir dans le fond de la forge un petit fer pour vieille saume, parmi tous les fers qu'il avait suspendus à la basse poutre qui soutenait le toit. « Baste !» dit-il en revenant, « pourvu qu'on aille, qu'elle aille !» Le second voyageur fit approcher la bête. Misère lui souleva la patte de derrière. « Baste !» dit-il, « un petit coup et ça ira, sur mesure !» Et il riait le brave homme en disant cela et à la pensée de rendre service. Le fer fut mis au feu et en tirant sur la chaîne du soufflet, notre forgeron de dire, histoire de parler, « Bast, dit-il, vous êtes des étrangers ?»« Nous sommes des étrangers, répondit le plus vieux. » Et cependant l'autre, le jeune homme au visage si pâle, pâle comme celui d'un mort, le jeune homme, le regard perdu dans le vague, souriait tout seul, comme un enfant qui rit aux anges. « Fou, fou !» chantait le soufflet. Et la flamme bleutée montait dans la cheminée, la belle flamme rigide et bleutée dans la cheminée toute noire. « Bast !» ajoutait Misère, « vous allez loin de ce pas ?»« Nous allons loin, » répondit l'autre, « nous allons loin, ô forgeron, et c'est pourquoi nous avons besoin de notre vieille ânesse. » Quand le fer fut tout rouge, si rouge qu'il en était presque blanc, Misère, avec sa pince à feu, le porta sur l'enclume. Et pique que tu piqueras, en un rien de temps, il vous eut mis le petit fer à la mesure du petit sabot. Dans une âcre fumée qui sentait la corne brûlée, le fer fut ajusté. Quelques clous firent l'affaire que le forgeron plantait d'une main dextre et qu'il prenait au fur et à mesure dans sa bouche où il les tenait. « Bast, dit-il, voilà qui est fait. Maintenant, vous pouvez partir sans crainte. » Alors, le jeune homme, en prenant la bête par le licou, demanda « Merci, brave homme, combien nous te devons ?»« Bast !» fit le forgeron en se grattant la tête dans un geste familier. Il avait relevé sa casquette et il grattait de sa main calleuse aux ongles courts et durs son crâne en sueur, sa bonne tête bien fixée sur ses épaules. « Combien nous te devons ?» redit l'autre, le bon vieux à la barbe blanche et à l'air respectable. « Bast !» disait Misère. En regardant ses deux clients, si pauvrement vêtus de haillons, si misérables et si lamentables, il sentait que son cœur déjà était ému. Et en lui-même, il se pensait qu'il ferait bien peut-être de ne rien demander à des gens si minables. Et il leur répondit « Bast, pour cette fois, je vous le fais gratis et pour l'amour de Dieu !» Les étrangers n'eurent même pas la force de faire semblant de refuser, tant sans doute pareille offre leur faisait plaisir. « Nous te remercions, forgeron, nous te remercions !» dit le plus vieux. « Bast !» ajoutait Misère. « Je vous inviterai bien à casser la croûte, mais le buffet chez nous n'est jamais bien garni et il est même souvent aussi vide que le soufflet de ma forge. » Or, le jeune homme, au teint pâle, avait regardé à la dérobée le vieux papette à la barbe blanche et il avait souri comme pour dire d'un air entendu « On nous l'avait bien dit, ça !» Mais Misère insistait. « Bast !» disait-il avec son bon sourire. « Il y a encore au grenier deux bonnes poires de mon verger. Deux bonnes poires conservées sur la paille. Deux bonnes poires fondantes. Je vais les chercher, car c'est agréable de manger un fruit juteux en cette saison. » Il allait s'élancer plein de zèle quand le jeune étranger le retint par la manche. « Va, forgeron, dit-il, laisse, laisse. Garde cette poire pour tes enfants. » Nous te remercions beaucoup de ce que tu as fait pour nous. Tu le vois, nous ne sommes pas riches et cependant, nous voudrions te laisser quelque chose pour que tu ne nous considères pas comme des ingrats. Bast, faisait l'autre. Et d'un geste large de la main, il semblait dire « Cela est si peu !»« Si, si, si !» reprit le jeune homme aux cheveux blonds. « Écoute, j'ai un grand pouvoir. » « Demande ce que tu voudras et je ferai en sorte que cela te soit accordé. »« Bast, bast !» répétait le forgeron, car, il faut bien le dire, il était indécis et certes aussi un peu incrédule. Mais comme il pensait que peut-être ça leur ferait plaisir quand même aux deux autres, il voulut bien. Mais il réfléchissait en se grattant la tête de sa main calleuse, aux ongles courts et durs. Notre conte n'est pas fini. Il s'arrête aujourd'hui sur un questionnement pour le forgeron, celui de notre histoire. dans notre prochaine lecture du livre « Contes et légendes du Languedoc », récit traduit et adapté de l'occitan, nous le poursuivons. Écoutez-nous sur Radio Alliance Plus. À bientôt, chers auditeurs.
Alliance Plus.